La balade du jour nous envoie cette semaine visiter le magnifique village du Crozet. Juxtaposé à la Pacaudière au pied des monts de la Madeleine, nous y avons rencontré Alain Froumajou qui est chargé des visites de groupe. Le Crozet pour certains, Crozet ou Creuset pour d'autres. Commençons d'abord par faire un petit point sur l'origine toponymique de ce village.
Précisément déjà l'origine du nom Crozet. Déjà une petite précision, les anciens vous parleront de Crozet. Et aujourd'hui, eh bien, ne serait-ce qu'au niveau du panneau indicateur, c'est le Crozet. Donc là, c'est peut-être une petite fleuriture d'un officier de l'administration qui était un peu distrait ou qui a trouvé ça plus joli. Mais ça date du 19e que le maintenant précède Crozet. Donc le Crozet, alors pourquoi le Crozet? Il y a deux versions qui s'affrontent. On a de nombreux lieux-dits d'ailleurs qui s'appellent Crozet parce que ça rappelle la notion de croisement. Donc ça, c'est une chose. Vous avez d'ailleurs les îles Crozet. Dans le Pacifique Sud, vous avez des lieux-dits dans la Loire, ne serait-ce dans la Loire, bon nombre de lieux-dits Crozet. Vous avez un Le Crozet d'ailleurs dans l'Ain, vous voyez, on n'est pas les seuls. Et puis l'autre signification qui tient la route aussi, c'est en vieux français, crouse, c'est ravin, fossé. Et là, on le verra au cours de la visite, à un moment donné, on va se retrouver vers l'église, vers le donjon. Et là, on a un apic assez fort, même si la végétation masque un peu tout ça. Et là, on peut penser que Crouse, le fossé, concernait tout à fait ce lieu. Donc voilà, deux idées, deux pistes pour les auditeurs, à vous de faire votre choix. Donc soit le croisement, soit le fossé, soit le ravin.
On va le situer aussi pour les auditeurs de l'extérieur, exactement. Par rapport à la côte rouennaise.
On fait partie de la côte rouennaise. On fait également partie de ce très beau massif des Monts de la Madeleine. Plus précisément, donc géographiquement, grosso modo, on est à 20-25 minutes de Roanne, on va dire une heure et quart de Saint-Étienne, une bonne heure et demie des portes de Lyon, et on va dire une heure et quart également de Clermont-Ferrand. Vichy est à une heure, donc on y vient assez facilement, puisqu'il y a cette fameuse route nationale 7, dont on reparlera en cours de visite. Et on est à la limite de ce qu'on va appeler la Loire Nord, puisqu'on est aux confins du Brionnais, avec la Saône-et-Loire, qui est le premier village de Saône-et-Loire, c'est Chenay-le-Châtel, qui est à moins de 10 km. Et puis, si on veut parler de l'Allier, eh bien, Saint-Martin-d'Estrault et Saint-Pierre-Laval, ce sont deux villages mitoyens. L'un est dans la Loire, l'autre est dans l'Allier. Donc, on voit bien qu'à travers ces deux positions, on est aux confins de trois régions. Rhône-Alpes, la Bourgogne, et puis l'Auvergne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, on est marié Rhône-Alpes-Auvergne. Comme je le disais à l'instant, on est aux confins de trois régions. Ça a ses avantages, ne serait-ce que touristiquement. On touche des publics et des touristes. Dieu sait si le Brionnais et la Bourgogne du Sud est connu. Ça nous avantage. Après, par moments, d'être aux extrémités, ça peut avoir quelques inconvénients.
Alors, un site médiéval?
Oui, bien sûr. Un site médiéval et on va avoir l'occasion de découvrir les traces de cette belle époque, de cet âge d'or, fin du Moyen-Âge, 13e, 14e, et puis après, je vous le dirai, la descente aux enfers.
Bon, alors, je vous suis dans les rues pavées du Crozet.
Donc, avant de rentrer plus avant dans le village, en intramuros, et on s'arrête devant le reste des fortifications. Donc, avec deux blasons, je dirais, il en faudrait 3, voire 4. Pourquoi 3? Parce que là, on n'en a que 2. On a le blason, ce fameux dauphin. Donc là, c'est les comtés du Forez, avec effectivement le fief Montbrisonnais. À côté, donc à gauche, le blason du Bourbonnais, avec, on reconnaît, les fleurs de lys. Et puis, il y a une cotisse, cette fausse diagonale. Donc, c'est bien la confirmation que c'est le blason du Bourbonnais. Je disais 3, voire 4, parce qu'il manque pour moi le blason des Bourguignons, ne serait-ce que de Semuré en Brionnais, parce qu'à un moment donné, les terres de Crozet étaient terres de Semur. C'était ce qu'on appelle la possession du Brionnais outre-Loire. Voilà. Mais effectivement, ils n'ont pas eu droit au blason. Peut-être qu'il y a quelques vieux souvenirs qu'ils ne veulent pas ressasser. Et puis on pourrait en parler d'un quatrième, c'est qu'à un moment donné, après la période bourbonnaise, eh bien, les terres de Crozet vont basculer dans la terre de France, dans le royaume de France. Donc on devrait avoir vraiment les fleurs de lys seules. Voilà. Mais retenez que c'est 4 grandes périodes. Et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir l'occasion, dans la visite du village, de voir à chaque fois des souvenirs, des maisons ou des bâtiments qui nous rappellent une de ces 4 périodes.
Alors, on avance. Voilà, la première belle maison à Colombages.
Voilà, et peut-être d'ailleurs une des seules. Si vous avez, vous avez forcément visité Charlieu, ça c'est l'incontournable Charlieu. Donc là, des maisons à colombages, vous en avez de très belles. Et concernant le Crozet, eh bien c'est une des seules. Tout simplement, c'est qu'on est finalement sur les premiers mètres des monts de la Madeleine, et c'est un massif granitique. Et à l'époque, eh bien on construisait avec ce qu'on trouvait sur place. Ceci étant, il y a une originalité dans cette maison, cette fameuse maison du connétable. C'est bien une maison à pans de bois, donc la façade en atteste. Aujourd'hui, cette maison, eh bien, elle abrite la mairie. Donc ça, c'est vrai à peu près depuis le début des années 80. Elle a plus avant, donc là, entre 1950 et 1960, elle a accueilli Mario Meunier. Donc vous voyez, on parlait tout à l'heure du Forez, du comté du Forez. Eh bien, Mario Meunier, eh bien, c'est un homme du Forez puisqu'il est né aux portes de Montbrison. Et cet homme, sur la fin de sa vie, donc en 1950, est venu passer du bon temps au Crozet. Et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de voir une de ses citations. Pour lui, c'est une belle parenthèse et un endroit où le temps est suspendu.
Alors on va rappeler Mario Meunier, un écrivain.
Oui, helléniste surtout. Pas énormément connu, quoique il a énormément contribué au développement, à la découverte des textes classiques, puisque c'est un traducteur. La petite histoire veut, enfin c'est pas la petite histoire, pour ceux qui ont la chance d'aller à Athènes un jour, qui ont déjà eu le, il y a une place Mario Meunier aussi, parce qu'il a énormément contribué à faire connaître les textes classiques. Et d'ailleurs, c'est celui qui a effectivement traduit le texte Antigone. J'ai parlé de connétable, donc pourquoi du connétable? Alors là, je vous ai parlé de quatre périodes. Là, on est, avant d'aller plus loin, tout a démarré, on va dire, à la sortie du voyage, on est dans la période bourguignonne. Après, on va avoir la période du comté du Forez. On va basculer en 1368 par mariage, en possession bourbonnaise. Donc 1368, là, concernant le connétable, on est sur la fin de la période bourbonnaise, puisqu'autour de 1515, cette fameuse date que tous les Français connaissent, François Ier va effectivement nommer Charles III de Bourbon connétable. Donc là, une distinction la plus haute dans la hiérarchie militaire de l'époque. Et donc ce Charles III de Bourbon va, à partir de cet instant-là, se faire appeler Charles le connétable. Et cette maison, eh bien, c'est une des nombreuses maisons. Dans les possessions du comté du Bourbonnais, il fallait que chaque châtellenie puisse recevoir effectivement le chef, on va dire. Et après, l'histoire ne dit pas que cet homme a vécu ici. Je n'ai pas vu de traces, je n'ai pas vu d'écrits, mais on peut toujours rêver. Ceci étant, il y a une très très belle cheminée à l'intérieur dans la pièce, la grande pièce, qui fait office maintenant de salle du conseil municipal. Une belle cheminée avec les armoiries des Bourbons. On va passer sous la maison du connétable. J'aurai plaisir à vous faire découvrir la cour de la Tour à Bec. Et la Tour à Bec, c'est le troisième vestige des fortifications qu'on a vues en entrée. On a vu ces deux tours avec l'arc brisé, où il y avait les blasons, et le troisième vestige, et on n'en verra pas d'autres. Et pour revenir à qui a fait édifier ces fortifications, et là on est dans la première période, c'est le comté du Forez. D'accord. Il prend possession de la terre du Crozet fin 12e, et cet homme, comme la plupart des grands seigneurs de l'époque, eh bien, se doit de partir en croisade, enfin d'accompagner. Bon, on disait, on partait en croisade, on savait quand on partait, mais on ne savait pas à quelle date on allait revenir. Eh bien, cet homme, par souci certainement de protéger sa population du Crozet, mais je pense aussi par souci de se prémunir de ses voisins bourguignons, on ne sait jamais, et puis bourbonnais, même s'ils étaient plus calmes, donc a fait édifier ses fortifications, dont on n'a plus que ces trois traces, donc le porche d'entrée et la tour à bec qu'on va découvrir. Donc, c'est des fortifications qui datent du début 13e.
Eh ben, on vous suit.
Il faudra malheureusement patienter demain avant d'admirer ces fameuses fortifications et la tour à bec du Crozet. Nous parlerons demain également de bien d'autres sujets, toujours avec Alain Fromageau. Donc à demain pour la suite de notre balade au Crozet.